Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi des actus, des découvertes et les derniers épisodes du podcast. Inscrivez-vous sur www.entreprendredanslamode.com. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Sharon et Barbara de Bâche. Bonjour.
Bonjour Adrien.
Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement, toutes les deux ?
Alors rapidement, je sais pas, on va essayer. Ça démarre mal avec moi, donc ouais. C'est Sharon. Ouais. Alors que veux-tu savoir ?
Juste te présenter, c'est toujours ma première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu peux reprendre ton parcours depuis ta plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui ? Et puis nous raconter un petit peu comment vous vous êtes rencontrés peut-être ?
Alors... En résumé, j'ai fait des études de droit. J'ai eu ma maîtrise, j'ai fait mon stage, j'ai pas aimé, ça tombe bien, je me suis mariée, j'ai fait mes enfants. J'ai pu comme ça réfléchir plus longtemps à ce que j'avais envie de faire en faisant des petites choses, des petits stages, des petits boulots qu'on a fait souvent ensemble avec Barbara d'ailleurs. Et puis ensuite, au moment où j'ai compris que mère au foyer, là, ça a commencé à devenir pesant. Avec Barbara, on a commencé à réfléchir à ce qu'on pourrait faire toutes les deux. Et puis, la vie a fait que les rencontres, on a décidé de lancer une boîte de prêt-à-porter.
Très bien. Et tes stages, enfin le début de ta vie professionnelle, comment tu l'as... C'était dans quoi ? Dans quel business tu étais ?
Du droit.
Droit, d'accord. Donc t'as vraiment bossé dans le droit.
Ah et pardon, j'ai pas dit, je me suis pas rendu compte.
T'as fait des stages, t'as eu des premières expériences en droit.
Ah oui, j'ai fait des stages, j'ai eu des premières expériences. J'ai été sur le point de me faire engager même par une boîte quand j'ai décidé d'arrêter parce que je sentais que c'était pas mon monde et que c'était pas mon truc de rester toute la journée enfermée dans un bureau à lire des bouquins. Non, j'avais besoin de rencontrer des gens, de parler, de voilà. Et du coup, comme je t'ai dit, en fait, la vie a fait que à ce moment-là, j'ai rencontré mon mari, je me suis mariée et je suis tombée enceinte. D'accord. Et du coup, j'ai arrêté tout, j'ai fait une pause. J'ai élevé mes enfants, j'ai deux filles. Une qui a aujourd'hui 23 ans.
Ouais, c'était grande, ouais.
Ah oui, elle va même sur ses 24 dans un mois. Waouh. Et l'autre qui en a 21. Et voilà. Et quand la petite a eu un an, j'ai décidé de les mettre à la crèche et d'aller travailler.
Et t'es retournée bosser en droit ou pas du tout?
J'ai un peu re-essayé un peu tout. Et puis, j'ai fait un peu de droit. Je suis allée dans l'optique. Mon mari bossait dans l'optique. J'ai bossé un peu dans l'optique avec lui. J'ai bossé un peu dans le prêt-à-porter. J'ai aidé des copines qui avaient des petites marques de fringues, pas grand-chose. Et puis finalement, un jour... avec Barbara, on a fait une rencontre et on savait pas trop ce qu'on voulait faire, ouvrir un salon de thé, lancer une marque de mode, on savait pas
cool.
trop.
Ouais, okay.
On voulait un truc assez cool pour pouvoir quand même rester proche de nos enfants.
Ouais.
Et puis finalement, une rencontre a fait que celle avec notre associé.
On n'a pas choisi le truc le plus cool.
Hein. Ouais. Oui, en fait, on n'a pas choisi le truc le plus cool, mais bon. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me sens seule là parce qu'il y a que moi qui ai le micro, attends. D'habitude,
donc,
on a l'habitude
de parler
d'être
toutes
à
les deux.
Et je
vais lâcher mon micro, je vais vous laisser communiquer toutes les deux. Non, mais juste là, la personne qui parlait, c'était Sharon.
Voilà.
Parce que tu me sens que t'as pas dit que t'étais Sharon.
Si je l'ai dit. Alors ça, je l'ai dit.
Je me fais engueuler. Et donc là, maintenant, on va laisser le micro à Barbara.
Me présenter également. Alors, écoute, j'ai 50 ans, j'ai 3 enfants.
Ça, je l'ai pas dit. J'ai pas dit mon âge. Moi, je suis plus jeune qu'elle.
Un grand garçon de 25 ans qui vit aujourd'hui à Londres. J'en ai un deuxième de 22 ans qui était parti à New York, mais qui rentre à la fin du mois pour redémarrer une aventure. Et j'ai une petite fille de 10 ans. Donc, j'ai 3 enfants. J'ai démarré ma vie professionnelle en tant qu'attachée de presse. Voilà, je viens d'une famille où il y a beaucoup d'amour. J'ai fait mes études, donc j'ai après le bac, j'ai fait les FAP pendant 3 ans. Donc je me suis plutôt orientée vers un métier de communication et un peu de créa. Ensuite, j'ai fait plein de stages en tant qu'attachée de presse dans la mode, dans le monde de la mode. Donc c'est là où un peu j'ai découvert toutes les collections, puisque quand on est dans un bureau de presse, finalement, on a en avant-première une vingtaine de créateurs. À l'époque, je travaillais d'ailleurs chez l'attaché de presse qui est le nôtre aujourd'hui, chez Jean-Marc Felous, où il y avait à l'époque des marques comme Zadig ou comme Paul & Joe, enfin des marques à l'époque qui étaient hyper désirables, enfin, qui le sont toujours aujourd'hui, mais qui à l'époque donnaient envie de s'habiller autrement que chez que dans le Max Market. Donc j'avais à disposition des collections entières et ça vraiment ça a commencé à m'intéresser aux qualités, aux styles, etc. Donc ça, j'ai travaillé là-bas un petit peu. Ensuite, je me suis mariée moi aussi relativement tôt, à 23 ans. J'ai eu mon premier enfant donc à 24 ans. Et du coup, j'ai arrêté de bosser aussi, un peu comme Sharon. On est restées un peu toutes les deux des femmes au foyer.
Au parc.
Voilà. Mais c'était aussi un moment très très sympa, parce que finalement, ces années-là passent tellement vite. Donc on est content d'en avoir profité, puisqu'après, la vie a fait qu'on a quand même pas mal travaillé. Donc on a pu rester au début de nos enfants, enfin avec nos enfants. Quand ils sont nés.
Mais ça, c'est génial. C'est quand même un grand luxe de pouvoir passer tout ce moment avec ses enfants.
Voilà. Et puis après, on en a eu marre. Donc, comme elle t'a dit, Sharon, au bout d'un moment, quand on est né à 5-6 ans et le petit 3 ans, on s'est dit, on va pas passer notre vie à aller au parc et les chercher à la fin de l'école. Et on a décidé de monter quelque chose ensemble.
Et vous étiez copines depuis très longtemps?
Alors nous, en fait, on s'est... C'est ça que t'attends. En fait, on s'est rencontrées l'année du bac. On passait le bac toutes les deux dans le même endroit, dans le même à Arcueil, parce qu'on faisait toutes les deux hébreu en deuxième langue. Moi, j'habitais à l'époque à Saint-Germain-en-Laye. Donc, j'habitais très loin d'Arcueil. C'était à l'opposé. Sharon habitait dans le centre de Paris. Et on avait une amie en commun qui m'a dit, bah écoute, c'est dommage, Sharon, elle passe le bac quand même en droit que toi. Peut-être qu'on peut, vous pouvez dormir ensemble toutes les deux, et comme ça le matin vous révisez puis vous allez ensemble passer le bac. C'est ce qu'on a fait. Et en fait, on s'est rencontrés et on a eu un vrai coup de cœur. Donc pendant ces 5 jours qui étaient quand même importants, puisqu'on passait le bac, on était toutes les deux dans la même pression, etc.
Mais vous connaissiez pas plus que ça?
Non, vraiment pas.
Mais en fait,
on se connaissait pas.
En fait, ce qui était drôle, c'est qu'on avait un meilleur ami en commun et une meilleure amie en commun, mais qu'on fréquentait jamais au même moment. Donc on s'est croisés pendant des années, mais on n'a pas eu l'occasion de partager vraiment des moments ensemble, et voilà. Et c'est ce...
Enfin, à part bonjour, voilà, on s'était pas échangé plus de 3 mois, quoi. Voilà.
Et c'est quand même bizarre, la vie, parce que c'est vrai que c'est quand on y repense avec du recul, moi je vivais seule. Et c'est vrai que c'était bizarre de dormir dans le même lit, parce que j'avais qu'un grand lit, avec une fille que je connaissais à peine, pendant 5 jours, pendant ce moment de vie vraiment intense quand même. Et ouais, j'ai dit oui naturellement. Elle a dit ouais, ok, super, merci beaucoup. Elle est venue chez moi. Et ben, on s'est plus jamais quitté.
J'avais un petit... On a eu le bac, en fait.
On a eu le bac. J'avais un petit copain à l'époque. Bon, je l'ai quitté parce que voilà, et je me suis éclatée. Voilà, pour Barbara. Non, nous ne sommes pas lesbiennes. Ce n'est que de l'amour. Une vraie amitié. Et,
forme d'amour, de toute façon,
et on s'est, et on a décidé de partir en vacances ensemble, et on ne s'est plus jamais quitté.
Non, mais vraiment.
En fait.
Jamais.
En fait,
on s'est mariés quasiment au même moment. On a eu, tout ça à un an près, quoi. On a eu nos enfants quasiment, parce que Savannah elle a 24 et mon fils a 25, quasiment au même moment aussi. Donc, on a vécu, en fait, toute notre adolescence. Jusqu'à aujourd'hui, toute notre vie toujours ensemble, ouais.
D'accord. Et donc là, vous avez des enfants, etc. Vous avez envie de faire quelque chose, un salon de thé, une marque de fringues.
En fait, on a envie de faire quelque chose toutes les deux déjà. Ouais. En fait, la base de notre aventure, et ça vraiment, c'est, on s'est dit, écoute, plutôt que de passer tout notre temps au parc ensemble, eh ben alors viens, on va monter quelque chose toutes les deux.
D'accord.
On va construire quelque chose toutes les deux.
Ben racontez-moi alors cette idée, comment elle germe. Et comment ça se passe? C'est des discussions quand on est au parc, et si on faisait ci, si on faisait ça.
Oui, mais en fait, ça a été très rapide, parce que ça faisait pas si longtemps qu'on se posait des questions, et on a rencontré Dan, que t'as interviewé il y a pas très longtemps. Dan et Jean-Jacques Cohen, qui avaient une structure, un magasin, des fournisseurs. Enfin, vraiment, ils avaient complètement une structure pour monter une boîte, mais par contre, ils avaient, comme il t'a expliqué, en fait, c'était du private label qu'ils faisaient jusqu'à maintenant. Ils avaient les usines. Et là, ils avaient envie de monter leur ligne. Et à travers nous, quand ils nous ont expliqué leur projet, on a dit, OK, pas de problème. Mais nous, on avait une autre vision de ce projet-là. Et ils nous ont d'ailleurs complètement laissé libre cours à...
Quelle était leur vision et quelle était la vôtre finalement?
À l'époque, le sentier, c'était vraiment du cash and carry. C'est-à-dire qu'en fait, on fabriquait trois semaines, on était dans un magasin, les clients venaient et retiraient. Il n'y avait pas vraiment d'ADN de marque, de collection, c'était du produit pur. En fait, à l'époque, le sentier, c'était, tiens, c'est la mode d'une parka, tout le monde faisait des parkas et tout le monde les vendait à tout le monde. Nous, quand on est arrivé, aussi par le fait que j'avais travaillé beaucoup dans les bureaux de presse, vu les collections se construisent, etc., ouais. On s'était dit, on veut pas faire du cash and carry dans le sentier, on veut vraiment monter une ligne de prêt-à-porter.
Et en fait, je fais une parenthèse là-dessus, et c'est, je pense que ça s'adresse aux jeunes aujourd'hui, parce que j'ai deux filles, et je vois comme c'est compliqué, je le sais déjà, puisqu'on a eu le même souci toutes les deux. Quand on a 20 ans, de savoir exactement ce qu'on veut faire, ce qui nous plaît ou ce qui nous plaît pas. Je vois mes enfants là qui se posent toutes ces questions, elles, leurs copines, à part quand t'as une passion et un don pour quelque chose vraiment très précis. Moi, j'ai fait du droit pour faire plaisir à ma mère parce que tout ce que j'avais envie de faire ailleurs, comme j'avais pas eu un super bac, un super diplôme, finalement, il m'avait pas pris. Donc, j'ai dû faire ça parce que là, il m'avait dit oui. Mais je regrette pas, et c'est ce que j'explique aussi à mes enfants, il y a rien qui sert à rien dans la vie, tout sert à quelque chose, vraiment. Et le droit, je m'en suis servi dans notre affaire tous les jours. On n'a pas de service juridique jusqu'à maintenant. Je m'occupe de tous les contrats avec une avocate qui nous aide depuis le début, mais qui est dans son cabinet, et je comprends, et voilà. Et donc ça m'a
fait plus que comprendre.
Non, voilà, j'ai eu ma maîtrise en droit, donc
C'est un atout extraordinaire d'avoir ce bagage en droit. Enfin,
c'est bien sûr. Et donc, c'est ce que j'explique à mes enfants et à tous les...
Là, elle leur fait passer un petit message au fil.
Non, mais à tous les jeunes, parce que je comprends complètement cette angoisse que j'ai vécue, que j'ai connue, et qu'on a tous connue, et que y a nos stress, quoi. Et en vrai aussi, ce qu'on va leur dire, c'est que nous, finalement, cette boîte, Bâche, on l'a démarrée, on avait 33 ans. Et je pense que une des clés du succès de notre boîte, c'est d'avoir eu toutes ces petites expériences qu'on a pu avoir avant, c'est d'avoir mûri, c'est d'avoir grandi, et parce qu'on se dit toujours avec Barbara, oh là là, mais dommage, pourquoi on n'a pas monté cette boîte quand on était plus jeune, quand on avait 20 ans. Mais en vrai, si on avait eu 20 ans quand on a monté notre boîte, on n'était pas assez mûrs et on aurait, je pense pas, réussi comme on a réussi aujourd'hui. En fait,
mais ça c'est hyper important parce qu'on est quand même à une époque où on glorifie les start-upers qui ont 20 piges, qui ont 20, 21, 22, 23 ans et qui lancent des marques. Il y en a qui réussissent et c'est très bien. Mais il y en a plein qui se crachent aussi.
Ouais, mais ça, c'est la discussion que j'avais avec ma fille hier. Je pense que, faut pas avoir peur. Faut tout essayer. Il faut se planter parce que c'est de ces expériences qu'on apprend et souvent celles où on fait des erreurs, au moins on les refait pas deux fois. Et je dis que il faut tout essayer et qu'il n'y a pas de problème à se scratcher. Ce qu'il faut pas, c'est ne rien faire.
On en est vraiment la preuve, parce que nous, on vient pas du tout, un petit peu moins de la mode, mais vraiment au niveau de la prod, on était complètement novices.
Barbara, plus que moi, avait vécu là-dedans. Moi, c'est juste quelque chose que j'aimais, et on avait toujours eu ce goût, quand on partait en voyage, d'aller dans les boutiques les plus sympas, les plus branchées, donc voilà.
Oui, vous aviez ce goût quand même naturel pour le vêtement, pour la fringue,
ce
etc.
goût naturel pour tout ce qui est mode, ouais. Déco, Mais ça s'arrêtait là, je veux dire, on n'a jamais eu de formation, on n'a jamais fait d'école pour... Donc tout est possible. Mmh. Et c'est ça vraiment qu'il faut dire aux jeunes aujourd'hui, il faut pas avoir peur, faut se lancer, tout est possible. Et nous, on est l'exemple, un des exemples vivants qui existent. Mmh. Et ce que je, pour revenir à ta question tout à l'heure, je sais plus exactement, mais ce que
l'idée que vous aviez en tête est celle de Dan.
Voilà. Mmh. En fait, nous, comme on avait déjà un âge, 33 ans, on était déjà des femmes mûres, on s'est placé en tant que consommatrice. Qu'est-ce que veut une femme de 30 ans pour s'habiller? Et c'était ça un peu l'idée de notre marque quand on a décidé de la lancer. On aime le luxe, mais on n'est pas non plus milliardaire, donc on peut pas acheter que des marques de luxe. Et puis en même temps, il y a le mass market. Mais à ce moment-là, on a monté cette boîte il y a 16 ans maintenant, ça vient de faire 16 ans. Le mass market, il est pas hyper branché et il est surtout pas quali du tout. Et donc, on se dit, il existe rien au milieu. Pas grand chose. Comme elle dit, elle a connu Zadig chez Jean-Marc Felous, l'attaché de presse avec qui on travaille aujourd'hui. Et c'était une des marques avant-gardistes qui avait déjà un ADN très fort, qui démocratisait le cachemire. Il y avait quelques marques comme ça de contemporary aux États-Unis qu'on connaissait parce qu'on aimait bien voyager là-bas.
Ah non, elles étaient pas encore, elles émergeaient pas encore.
Ils étaient dans le sentier, c'était encore des marques du sentier qui travaillaient, comme elle a dit, Barbara, en cash and carry, mais qui avaient pas encore cette notion de distribution sélective. Et nous, c'est là-dedans qu'on a eu envie de se lancer. Nous, en tant que consommatrices, on a envie d'être reçues dans une boutique où on se sent comme à la maison, où on offre un service de luxe, mais où on n'a pas peur de rentrer quand même, parce que c'est quand même assez chaleureux pour ne pas avoir peur de pousser la porte. Et puis, en même temps, on a envie de payer un truc, ben, le juste prix. On veut que la qualité soit en rapport avec son prix, et on veut qu'il soit assez stylé, mais pas non plus... voilà, on n'a jamais été fashion addict. On aime la mode, on suit les tendances, mais on se déguise jamais. Voilà. Et ben, je crois que c'était l'idée de la féminité.
Oui, c'était d'avoir une armoire idéale à un prix juste. Et donc, d'ailleurs, on a démarré, on s'est bien cassé la tête, parce qu'au début, on voulait... faire une vraie collection, alors qu'on démarrait vraiment, mais avec des prix très justes, comme elle t'a dit. Donc c'était tout ce qui était coton, broderie, etc., on allait en Inde. Et puis après, tout ce qui était cachemire, on allait en Chine. Et puis après, tout ce qui était t-shirt et jean, on allait en Tunisie ou au Portugal. Et tout ce qui était chaîne et trame,
C'était quand même costaud.
En plus, on était vraiment toutes les deux. On était trois quand on a démarré. Donc vraiment, on a beaucoup bossé, voyagé. C'était une modéliste qui est encore là, d'ailleurs. Donc on avait une modéliste et toutes les deux. On avait pas beaucoup.
Et là, vous partez sans Dan, hein. Enfin, vous partez sans,
Non. Alors, on démarre, bien sûr, avec la structure de Dan. C'est ça qui nous a beaucoup aidé. En fait, Dan nous a dit, écoutez, OK, faites ce que vous voulez. Cash and carry, pas cash and carry. Il s'en fiche un petit peu.
Carte blanche.
Vraiment, ça a été un associé, incroyable. Alors, on avait une amie,
c'est toujours la même.
Qui nous a présenté à Dan. Elle travaillait à l'époque chez Vogue, parce que c'est une sacrée copine. Bah, c'était une très, très bonne amie.
Mais on a des sacrées.
Nous, on savait pas, enfin, on savait qu'on avait envie de monter un truc. Lui était en train de se demander avec qui il pouvait monter cette marque, parce qu'il croyait moins en l'avenir de sa boîte. Il sentait que le vent tournait et il s'était dit que ça serait bien de verrouiller un autre pan de son activité. Donc, il est venu nous exposer son projet. Nous, on lui a dit, écoute, à l'époque, c'était un projet, hein. C'était pas du tout comme il vous a dit, ni PB, ni rien du tout. C'était juste, surtout humainement, comment ça pouvait se passer. Du coup, il nous a laissé carte blanche en nous donnant tous ses fournisseurs.
Ouais.
En nous offrant tous ses fournisseurs.
Ça, c'est quand même un sacré coup de pouce, hein.
Bien sûr. Où il nous a amené en Inde, en disant, voilà, là, tu peux travailler avec celui-là, ou en Chine.
Et puis, c'est vrai que la chance qu'on a eue grâce à lui, c'est de pouvoir, tout produire. C'est-à-dire qu'on a pu honorer tout de suite toutes les commandes qu'on avait prises. Alors,
parce
quand on démarre.
La première année, en fait, on a fait du cash and carry pour avoir un peu de cash, parce qu'on était dans le sentier. Et en même temps, parallèlement, on avait fait les salons. À l'époque, on faisait le Who's Next. Donc, on avait fait 4 collections, là, pour des petites collections, hein, pas des aussi grandes qu'aujourd'hui. On avait une en cours, pour qu'on puisse avoir un peu de cash, et une qu'on vendait en salon. La saison d'après, on vendait en salon. Et en fait, on avait des toutes petites
quantités.
Mais en même temps, on commandait un peu plus pour avoir les minima quand même, pour pouvoir donner du cash and carry, du stock à nos clients.
Vous pouvez expliquer cash and carry, ce que ça veut dire?
Cash and carry, ça voulait dire qu'en fait, ils venaient à l'époque, les multimarques, acheter dans le sentier, dans les magasins, et ils payaient cash, ils prenaient la marchandise directement.
D'accord. Donc vous aviez
pas une commande 6 mois à l'avance comme aujourd'hui.
D'accord. Mais ça veut dire que vous lanciez une production assez importante. Alors, pour que les gens puissent.
Ouais. Sur la première production, on l'a lancée un peu à l'aveuglette en se disant, on espère que ça va marcher.
100 pièces de chaque, XS, SM et basta.
Et parallèlement, on avait monté une autre collection qu'on présentait pour la saison d'après, Who's Next, où là, les gens prenaient des ordres de commande. Mais comme on n'était pas du tout connu et que c'était vraiment rien, les ordres de commande, on produisait un peu plus pour que la saison d'après, les gens puissent faire les deux. Cash and carry et order. On a un peu surfé sur les deux façons de travailler au début.
Donc en fait, tout le concept de notre marque qu'on avait tout de suite en tête, c'était de lancer une marque féminine, à un prix juste, coloré, l'armoire idéale d'une femme qui travaille, qui a des enfants, qui sort le soir.
En fait, on se disait, on travaillait souvent le soir à la maison. On se disait, alors, qu'est-ce que tu mettrais si tu sortais là? Qu'est-ce que tu mettrais pour aller au travail? Qu'est-ce que tu mettrais pour partir en vacances là?
Et l'idée, en fait, c'était de la distribuer de façon sélective, c'est-à-dire de choisir les magasins où on avait envie de les vendre.
Bien sûr, c'est là toute la nouveauté.
L'idée, c'était de se dire où est-ce qu'on irait, qu'est-ce qu'on porterait. Ça démarrait de qu'est-ce qu'on porte, quel prix on le paye, où est-ce qu'on l'achète. Et comme on était deux et qu'on était déjà plus grande, plus mûre, eh ben, on est parti de cette idée qu'on n'a pas lâchée. Et puis on a appelé tous les magasins qui nous plaisaient et à qui on avait envie de vendre la marque. Et tant qu'ils nous disaient pas oui, on les rappelait. et on les rappelait. Et jusqu'à qui craque. Et ça inclut le bon marché,
Non, mais en fait, on a eu aussi beaucoup de chance dans notre aventure. Donc, on a fait notre première collection en cash and carry, plus notre deuxième collection, donc on devait livrer 6 mois plus tard. Et entre temps, il y a une acheteuse des galeries qui est passée dans ce qui se baladait dans le sentier, qui a craqué sur notre marchandise et qui nous a donné directement la première saison avec notre cash and carry. Un petit stoyac, à l'époque il y avait un endroit de multimarque où ils mettaient des marques, donc déjà on a commencé comme ça, et la saison d'après nous a carrément donné directement un petit corner aux galeries, donc c'était quand même fou parce que on venait de démarrer, elle sentait qu'on pouvait avoir du stock, on pouvait être réactive, et puis bon, je sais pas, elle a aimé notre énergie et notre personnalité. Je pense que ça a aussi beaucoup joué dans notre ascension, notre personnalité et le fait qu'on tenait nos promesses. On leur disait voilà, on va vous faire ça, et on était très flexible pour fabriquer,
et puis
on
très sérieuse quoi, même
bien sûr, mais aussi très flexible. Alors, on savait qu'on pouvait faire des réassorts rapidement, on savait par quel pied aller, il fallait être assez maligne à l'époque parce que on pouvait acheter que des minima de tissu, mais dans ce tissu il fallait couper plusieurs thèmes. Voilà, on essayait toujours d'honorer nos commandes et d'aller alors ou par la Chine avec Dan qui nous faisait une petite quantité, mais même en chaîne et tram on honorait toujours nos commandes pour pouvoir commencer à avoir un nom sérieux.
Et parce que les délais de production à l'époque, c'était ce qui existe encore aujourd'hui, quoi.
Aujourd'hui, non, à l'époque, 10... on pouvait aussi faire fabriquer dans le sentier par des petits entrepreneurs, bien sûr.
Donc et vous aviez
même avoir des manteaux en réassort ou des choses.
D'accord,
comme
ça c'est extraordinaire.
Bah, en fait, on se mouillait sur les tissus, on achetait du tissu plus.
En stock, ouais.
Et puis après, si le modèle marchait, on coupait tout dedans, et si le modèle marchait pas, on faisait un autre modèle dedans. Donc on prenait des risques. En fait, on limitait les risques sur le produit. On coupait pas tout d'un coup.
Et le nom, ça vient de bon, ça vient de
non,
quoi
nom, mais on avait galéré pour le trouver. On avait envie de
honnêtement, le nom c'est par dépit.
Ouais, vraiment à la base un peu.
Et parce que on a voulu s'appeler Bliss, on a voulu s'appeler Addict, et tout était pris. Et du coup, il y a une amie à nous,
Ouais, on brainstormait un soir chez elle, on avait dit, on galère, il faut qu'on trouve un nom, et tout le monde sortait des noms dans le délire. Et elle dit, mais pourquoi vous prenez pas vos deux initiales? C'est très sympa, ça fait bâche, ça fait coup de poing, c'est sympa. On a dit, ok, mais ça aussi c'était déposé à l'époque.
Et donc on a dû rajouter l'esperluette, parce que BASH attaché, ça existait déjà. Et donc l'esperluette, nous on trouvait ça trop canon, sauf que, on commence à se faire appeler BA et SH. Bah oui.
Non, mais au début, on avait caché un peu l'esperluette dans le premier logo pour le dissimuler. Mais malgré tout, on nous a appelé, on disait bonjour, on est bien chez BASH. On a dit, oh là là, mais quelle galère. C'était plus lourd, c'était plus du bash, c'était pas aussi fluide.
Mais on s'est tout de suite dit, écoute, ça va interpeller, ça passe ou ça casse, on verra bien.
Puis on aimait bien, là, on s'est dit qu'avec la lésion après avec notre équipe.
Et puis on aimait bien la signification du mot en anglais aussi. Alors. Bah, bash, c'est point taper fort. Nous, c'est dans le bon sens qu'on le prend.
Le bashing, ça veut dire des fois quand on s'acharne sur quelqu'un ou sur quelque chose. Donc, en fait, ça nous correspondait pas mal. On s'acharne. Enfin,
nous, c'est dans le bon sens. C'est parce qu'on est têtu et qu'on lâche pas l'affaire. Donc, bash, c'était pas mal.
Et alors, comment
c'est bien, ils sauront pas qui c'est, surtout elle.
Si, mais on reconnaît les voix quand vous avez des voix qui sont très. Si, t'inquiète. En tout cas, vos collaborateurs, si. Petite question. Comment vous êtes organisés toutes les deux? Parce que donc vous étiez trois, il y a Dan. Comment vous refilez les jobs, quoi, tous les deux?
Il était vraiment ce qu'on appelle un partner sleeping. C'est-à-dire qu'en fait, il nous mettait à disposition tout ce dont on avait besoin, son service juridique, une styliste, print si on avait besoin. Vraiment, on était comme chez nous. Mais par contre, il intervenait en rien. Il s'occupait absolument de rien.
Dan est venu nous rejoindre des années plus tard.
Oui, ça tu l'as. Bon, on va l'expliquer. Ben non, en fait, voilà, il est venu avec sa structure, son magasin qu'il nous a donné en bas de son bureau. Donc c'était un magasin pignon sur rue, tous ses fournisseurs, etc. Mais par contre, au niveau du travail, il intervenait absolument en rien, ni dans les collections, ni dans les prix, ni dans rien.
C'était l'associé rêvé. Ben oui, franchement, il a été génial. Il nous a fait confiance à 100%. Et même s'il comprenait pas toujours
où on voulait aller,
à l'époque, voilà, parce qu'à l'époque, il faut dire que les collections du sentier, des marques un peu plus fortes dans le sentier, dont Mage, Sandro et tout ça, c'était très bling bling. Lui, c'était un des fournisseurs principaux de toutes ces marques en accessoires, donc du strass, des broderies, des choses comme ça. Mais nous, à l'époque, on avait envie d'autre chose. On avait envie de quelque chose de beaucoup plus pur. C'était plus dans les qualités, des recherches de coupes.
Ou des prints, des choses vraiment plus légères. C'était, il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée sur le vêtement. Alors que lui, c'était son métier Vogue à la base. Il faisait du produit fini, il vendait aussi de la valeur ajoutée.
Mais ils ont été géniaux parce que, voilà.
Non, au début, la première fois, il est monté voir la collection, il a dit, mais c'est très simple tout ça, vous avez aucune valeur ajoutée sur vos produits. Voilà. Et là, on lui a dit, écoute, toi, ton job, c'est pas ouais. ça. Donc,
ouais. Tu restes à ta place.
Non, mais bon. Bien sûr, avec beaucoup d'amour. Et toujours beaucoup d'humour. Et puis au bout de 7 ou 8 ans, la boîte commençait vraiment à prendre beaucoup d'ampleur. On avait aussi nos enfants, parce que notre famille, c'était toujours hyper important pour nous. Et on ne se voyait pas parcourir la France pour développer le retail. Donc on lui a dit, écoute, t'as 50% de cette boîte, vous avez à vous deux 50% de cette boîte, il faut venir nous aider, ou alors vous nous rendez nos parts et
on se démerde autrement.
Évidemment, on savait très bien qu'il était tenté par l'aventure. Lui, en fait, ce qui le dérangeait, et c'était très élégant de sa part, c'était du fait qu'on soit toutes les deux et que ça se passait super bien, il avait peur, en fait, d'abîmer cet équilibre. Il s'était dit, comment je vais trouver ma place autour de cette forte personnalités, c'est cette forte amitié surtout. Donc c'était plus par élégance qu'il venait pas, alors qu'en fait il avait beaucoup à donner dans cette boîte. Et d'ailleurs quand il est arrivé, le développement du retail était évidemment bien plus facile pour nous, parce qu'on a pu se consacrer de notre côté au style, à la prod, à la vente, au merch, aux achats, etc. Et lui a pu se consacrer complètement au développement, aux affiliations.
Parce que je crois que quand il est rentré, on avait ouvert nous une dizaine de boutiques sur Paris. Je crois.
Après, avec son état, il avait commencé à nous
aider. Oui, il avait commencé à nous aider sur Paris.
C'est là où on a vu qu'il était bon. On a dit, attends, c'est dommage, tu nous as ouvert des super boutiques. C'est dommage de pas continuer. Parce que maintenant, Paris, c'était plus ou moins facile pour nous tous. Mais après, tout ce qui était province ou export, il fallait bien que quelqu'un aille voir sur place, etc. Et donc là, on a mis Dan au fourneau. Et personne n'a été déçu. Et voilà, donc il est venu nous aider en 2010 et la boîte a pris évidemment une autre tournure.
D'accord, on va revenir sur les milestones. Juste pour terminer, la question que j'avais, c'était, je l'ai perdue bien sûr. Non, c'était...
On revient en 2003 au démarrage ?
Ouais, non, mais la question que je me posais, c'était... Ah oui, il y avait deux choses. Le sentier, le sentier, quand on parle du sentier, souvent, c'est un côté péjoratif. On dit,
Pourtant, c'est la meilleure école du monde.
Bah ouais. Vraiment. Mais je me rappelle, c'était con, mais à l'école, se reconnaîtront Virginie, du studio Berceau, etc. Ils disaient, non, mais ça fait sentier en parlant de
collections.
Parce
qu'évidemment, il n'y avait pas beaucoup non plus de création. C'était beaucoup aussi de modèles qui étaient inspirés de grosses marques. Bien sûr, non, mais ça, c'est vrai. Et pas au niveau du style. Moi, je parlais qu'au niveau de tout ce qui était prod, malléabilité, business, etc.
C'était la meilleure école du monde.
Sincèrement. Ouais. Et après, et c'est là où on a amené justement une différence avec le sentier, c'est qu'on a amené nous des collections avec la possibilité de les créer.
Vous sortiez du cash and carry quoi.
On sortait du cash and carry, mais on se servait quand même de cette prod du cash and carry pour nous aider à faire nos réassorts, etc. Mais par contre, on avait pris en fait la façon de travailler des créateurs, c'est-à-dire on faisait nos collections en avance, on partait en Inde pour les broderies, etc. Et en même temps, on arrivait à produire façon sentier, pas avec les qualités du sentier, mais en tout cas façon sentier, c'est-à-dire rapidement. On arrivait à délivrer nos productions assez rapidement.
Et la différence, nous, c'est qu'on a commencer à distribuer cette marque de façon sélective, de choisir les emplacements. Dans la même rue, il n'y avait pas deux fois un magasin qui avait notre marque, alors que le sentier, eux, ils s'en fichaient. Eux, celui qui rentre, il demande...
Ils se moquaient un peu de l'image, finalement.
Ils voulaient faire que du business.
Eux, ils voulaient juste vendre. Et puis ça... Mais c'était une autre époque, il y a une autre mentalité.
On a monté ce marché tous en même temps, c'est-à-dire Coppel, Smash, Sandro, Zadig. On est arrivés au même moment. On a eu la même idée au même moment. On n'avait pas fait de part de marché. Quand on s'est lancé sur ce secteur, on ne savait même pas si ça allait prendre.
Et pour te dire, en France en particulier, c'était compliqué de trouver des magasins multimarques qui correspondaient à la vision qu'on avait de... Où est-ce qu'on aimerait, nous, acheter notre magasin? Donc, on choisissait ceux qui nous ressemblaient le plus.
Parce qu'en fait, on était cash and carry, mais on avait fermé notre magasin comme un showroom et ne rentrait et ne prenait la marchandise que les magasins qu'on avait des idées qu'on voulait bien. Ce qui était pas le cas à l'époque.
Je crois que Dan vous en avait parlé. Ouais. Il nous a pris pour des folles à ce moment-là. Grâce à lui, on avait une des plus belles boutiques du sentier. Vraiment avec une vitrine incroyable et tout. Et puis quand on a compris que ça allait pas...
Avec ce qu'on voulait faire.
On a décidé de fermer la porte à clé et de mettre même des autocollants sur la vitrine. Donc on avait le plus beau magasin du sentier avec des autocollants fermés. Fallait sonner, puis voilà.
Vous regardiez Et si, ça, si les visages ne vous revenaient pas,
non,
ça nous intéresse
c'était
pas
du tout ça. Non, c'est,
pas loin, pas loin.
C'est compliqué parce que au début, bien sûr que les gens, je crois qu'on nous a traité,
ouais,
les pisseuses du sentier, je crois qu'on nous a appelé à un moment donné. Mais c'était pas ça l'idée. C'était nous, on était persuadés que on vendrait beaucoup mieux dans un endroit où on aurait, nous, en tant que consommatrices, envie d'aller acheter. Donc, je pense que si on vendait...
On leur a rendu service, hein, ils n'auraient pas vendu.
Ils n'auraient pas vendu, exactement. Non, mais c'est vrai, c'est en fait... Et puis, ça, il s'est avéré que c'était vrai, parce que des fois, il y a des gens qu'on connaissait, on avait du mal à leur dire non. Puis finalement, ils ne vendaient pas, parce que on comprenait le mix de marques, il n'allait pas, ça ne correspondait pas à la cliente vers qui on allait. Donc,
Puis en faisant le Who's Next, en fait, on a découvert une catégorie de ce genre de magasins qui pouvait nous convenir, justement. Ouais. Et du coup, on a beaucoup travaillé. Parce qu'à l'époque, je sais pas aujourd'hui comment ça se passe, mais on a beaucoup démarré avec le wholesale et les salons. Mmh. On faisait le Coterie à New York, on faisait le Who's Next à Paris. Mmh. Et ensuite, est arrivé notre premier magasin de retail très très rapidement. Parce que par contre, toutes les deux, ça, on avait très très envie.
D'avoir votre propre lieu.
Bah, pour pouvoir s'exprimer et montrer notre univers. Mais ce qui était très nouveau, tout ça, à l'époque, vraiment, ouvrir un premier magasin.
Aussitôt.
Et puis, à l'époque, parce que là, aujourd'hui, on est 15 ans, mais ça a beaucoup bougé, mais les marques du sentier, entre guillemets, elles ouvraient pas leur propre magasin, quoi.
Ouais.
Et à l'époque, Maj et Sandro, Maj commençait aussi à le faire.
Ouais.
Mais c'est tout. Il y a les Addicts qui le faisaient, et il y avait Paul & Joe, il y avait pas beaucoup de marques comme ça avec leur propre magasin.
Et vous, à l'époque, vous saviez compter. Vous aviez déjà ce sens inné du business de dire, OK,
oui, on savait combien
j'achète tant, je vends
ah bah,
tant, j'ai tant de marge, etc.
Oui, ça,
Dan n'a pas eu besoin de vous expliquer.
Dan nous l'a expliqué un tout petit peu au début quand même, mais très rapidement. On a quand même un sens du business, bien sûr. Si on en est là aujourd'hui, on n'a pas que le côté créa. Sinon, on n'y serait pas là. On serait pas là non plus.
Et ça, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, bah, je pense que c'est aussi beaucoup grâce à l'âge avancé auquel on a monté ce business. Donc, nos stress. Voilà. Message pour ma fille encore.
Non, on savait compter. On savait faire un prix de revient. On en savait quelle marge on devait obtenir pour pouvoir payer tous nos frais. Voilà, tout ça, on savait faire.
C'est marrant ce que tu dis sur ta fille. Parce que je trouve que quand on a des parents comme vous, ça met une pression dingue sur vos enfants. Comment vous leur dites, relax Max, ça va aller?
Bah, c'est ce que je suis en train de dire à tous les jeunes. Tu vas trouver ta voie, quoi. T'as le temps, on n'est pas pressé. Bon, après, il faut manger, bien sûr. Alors, elle a la chance d'avoir une mère qui lui permet de prendre, d'être relax et voilà, et de savoir qu'elle aura quand même à manger. Mais bon, il faut, plus vous essayez des choses et plus le temps passe et plus vous apprenez et plus vous serez prêt à affronter ce qui va arriver et à réussir dans la vie. Et...
Ouais, moi j'ai moins ce problème parce qu'en fait, j'ai des garçons, donc peut-être que déjà il y a moins l'identification. Et ils ont, l'aîné a trouvé sa voie très très facilement, direct, après l'école.
Ouais.
Il est parti à Londres et là il est en train de monter sa boîte et il est au contraire je pense que ça lui donne plus une
des ailes,
il dit plus que tout est possible. Et mon deuxième a travaillé un peu chez Bache là à New York et là il rentre pour travailler dans l'immobilier. Pareil, il a plus envie d'être chez Bache. Alors oui, les quatre ont essayé Bache, aucun n'est resté.
Ah ouais.
Parce que je pense qu'effectivement là il y a trop de pression pour eux, être les fils d'eux, ça doit être un peu
ouais, c'est chiant.
Franchement, et je comprends surtout à cet âge-là. Et du coup, non, moi j'ai pas eu de ce problème d'identification parce que alors ma fille est jeune, elle a que 10 ans. Mais avec mes aînés, j'ai pas eu ce problème encore. Mais je pense que c'est plus les filles qui peuvent s'identifier à la mère, les garçons je pense pas.
Ouais. Très bien. Une question que j'aime bien poser, c'est les différents milestones de l'évolution. Donc dans les 15 dernières années qui sont passées, d'après vous, c'est quoi les moments les plus forts, les plus marquants qui marque l'histoire de Bache?
On en a plein, hein. Si on commence.
Nous, on est très enthousiastes de tout ce qui nous arrive.
Oui,
en plus,
ça.
Même une femme dans le métro, la première fille qui n'était pas une copine dans le métro qui portait du Bache, ça a été un moment hyper important pour nous. Non, mais vraiment.
On est deux gamines, hein. Ouais. On regarde encore les filles dans la rue en se demandant si on les connaît ou pas. Bon, aujourd'hui, j'exagère, mais il n'y a pas longtemps encore, on prenait plaisir à plein de choses. Et alors, les grands moments, ça sera la première ouverture du stand au Galeries Lafayette.
Le premier magasin rue des Saint-Pères.
Le Bon Marché qui nous dit « Ok, venez,
on vous
prend ».
Le Bon Marché, c'était vraiment une étape très importante pour nous. Surtout comme vous disiez à l'époque, c'était le sentier. Et les autres marques. Et quand on est rentré au Bon Marché, après on a vite déménagé, on est resté que 2 ans hein, rue Réaumur. Après on a pris un magnifique showroom dans le Marais. Et après, donc après ça s'était terminé le sentier. Et en fait rentrer dans des grands magasins comme le Bon Marché avec tous les créateurs autour de nous, c'était vraiment très très important.
Après c'était le magasin qu'on préférait à New York, qui nous a enfin dit oui et qui nous a pris une très belle commande. C'est Il y a eu Calypso, Intermix. Et là, c'était waouh, c'est un autre monde, une autre dimension. C'était 150 pièces au modèle. Alors que nous, on était encore avec 333, avec
les magasins à Londres, notre premier magasin à New York. On en a toujours, et encore aujourd'hui, notre premier magasin en Chine, à chaque fois, c'est toujours fou. On se dit toujours qu'on a beaucoup. Enfin, en tout cas, nous, depuis qu'on est toutes les deux et depuis qu'on a démarré, en tout cas, depuis la première année, on se dit qu'on a beaucoup de chance déjà de faire un métier qu'on aime, toutes les deux, de voyager beaucoup toutes les deux. Enfin, tous les matins, on sait combien on a de la chance d'être arrivé là. Mais même avant d'en arriver là, on était déjà très heureuse dans notre business. Même quand Bach n'était pas hyper connu, le fait de voyager tout le temps, on partait une fois en Asie pour la prod et puis après on partait à New York pour la vendre. Donc on avait beaucoup de chance déjà.
Les autres milestones.
Deux déjà, c'est toujours...
Les autres milestones quand même. Est-ce que ouais, l'ouverture des premières boutiques, la première boutique,
oui,
c'est quand même assez
rue
dingue.
Des Saint-Pères,
quoi.
Ce que ouais. dit, la première ouais. boutique rue des Saint-Pères, ouais. la première boutique à New York, la première boutique en Chine, la première boutique à Londres. Tout est hyper important.
Ouais.
Bon, la vraie, vraie grosse date aussi, ça a été quand Elle Caterton nous a appelés.
Alors.
Ça, c'est Sharon.
Alors, je vous raconte tout. Donc, Barbara est partie en voyage d'affaires. On devait partir toutes les deux. On avait été invitées par Lagardère en Birmanie. Et puis moi, à dernière seconde, j'ai pas pu y aller. Et du coup, Barbara est partie seule. Non, bah, oui. C'est la presse. C'était un voyage presse. Et non, je vous dis, on
le
a...
voyage business, sympa.
Voilà. Et puis, moi, je suis restée à Paris et j'ai reçu un appel d'un monsieur dont je connaissais déjà le nom parce qu'on en avait pas mal entendu parler dans la presse. Il s'appelait Eduardo Velasco. Et il travaillait dans le fonds El Capital, qui est le fonds privé de Bernard Arnault, LVMH, et qui m'appelle pour me dire qu'il aimerait nous rencontrer. Alors je fais comme si je sais pas qui c'est et je bon ok d'accord et là je raccroche et je saute de joie et j'appelle Barbara en Birmanie où il n'y a absolument pas de réseau
et elle arrive à me catcher 3 secondes et elle me dit mais c'est hyper important, je dis mais j'ai pas de réseau donc j'allais voir tout le monde, je vous paye 10 euros parce qu'en fait il y avait qu'Orange qui marchait, donnez-moi votre portable parce qu'elle me dit c'est hyper important, donc moi je me dis Net-à-Porter, on l'attendait depuis longtemps etc. Je dis, bon, Net-à-Porter. Elle me dit, mais non, mais bien mieux que ça. Je dis, mais bien mieux que Net-à-Porter. Et là, elle me dit...
Et en fait, je lui ai dit que Eduardo vient de nous appeler, qu'il veut nous rencontrer, qu'il est très intéressé par notre marque. En fait, El Capital, c'est le fond. Parce qu'entre temps, Maje et Sandro nous ont vite rattrapés. Bah, ils avaient plus d'expérience que nous et plus d'argent. Donc, ils nous ont vite rattrapés. Et ils ont ouvert beaucoup, beaucoup de magasins. Et entre autres, grâce à l'aide de ce fonds qui est rentré chez eux, El Capital. Donc, dans la presse, on parlait partout de cette vente qui avait été incroyable. Ils ont réussi à multiplier leur chiffre d'affaires très vite, à revendre cette boîte une fortune. Et donc, c'est ce fonds-là qui nous appelait. Waouh. Et ben voilà. Et donc, il y a 5 ans, on les a rencontrés. Ils sont rentrés dans notre capital. On leur a vendu 50% de notre capital. On est resté. Bon, ils voulaient plus. Hein. On n'a pas lâché l'affaire.
L'avocat a parlé. Là.
Et on est resté nous trois, Dan, Barbara et moi, avec 50%. Mais bon, quand on les a rencontrés, on n'était pas encore prêts, on n'avait pas décidé encore de rentrer en fonds et de vendre des parts de notre boîte. Mais en même temps...
Parce que jusqu'à présent, jusqu'il y a 5 ans en arrière, vous aviez fait votre... la croissance organique, quoi.
Complètement, croissance organique, on a eu beaucoup de chance, ça marchait, les banques nous suivaient, tout était ouvert, sincèrement. Mais bon, ils sont venus nous voir et on s'est dit... Why not, quoi? Enfin, pas why not. D'ailleurs, on s'est dit, mais bien sûr qu'on va le faire. On leur a pas dit oui à lui tout de suite, mais on s'est dit, oh, quelle chance. Parce qu'on avait quand même, je pense, commencé à atteindre nos plafonds à nous, personnels. Bah, on faisait environ 50 millions d'euros. Ce qui est déjà énorme.
Non, quand ils sont venus, on faisait 80, puisqu'on a vendu la patte.
Oui.
Ils sont venus, on faisait 80.
Quand on a eu le premier contact avec eux, on était à 50. Et on a commencé à discuter, ça a pris une petite année. Et puis ils sont rentrés, on avait fini par faire 80.
Ouais.
On avait combien de boutiques à l'époque? Une centaine?
Une centaine de boutiques en propre, hein.
Au moins, tu dis, non, mais je compte les grands magasins.
Ouais.
Donc, on avait 100, une centaine de points de vente.
D'accord.
Aujourd'hui, pour vous dire, on va finir à 250 points de vente.
Quand vous dites points de vente, c'est quoi? C'est des boutiques propres ou c'est...
Alors, c'est les boutiques propres et c'est les grands magasins. Parce que les grands magasins, on a ce qui s'appelle des concessions.
Oui.
Donc, en fait, on loue des espaces dans les grands magasins, mais c'est notre équipe, c'est nos travaux,
c'est notre
magasin, c'est un shopping shop, quoi.
D'accord.
Et donc, voilà. Aujourd'hui, on en a 250.
Et donc, El Capital, alors, qu'est-ce qu'il vous apporte finalement?
En fait, ce qu'il nous apporte, ce qu'on cherche de chez lui, c'est vraiment l'international. On est déjà en Europe, pas mal implanté, en Belgique, en France,
en Angleterre,
un peu en Espagne, mais voilà. Et puis, nous, ce qui nous manque, ce qu'on a envie depuis le début, mais on se lance pas seul, c'est les États-Unis et l'Asie. Et c'est ça qu'ils nous ont apporté vraiment. Ils nous ont ouvert les sésames, ils nous ont aidés à nous développer. On a monté des structures là-bas. Aujourd'hui, on a un bâche US et un bâche Asie.
En fait, ils nous ont donné cette force de frappe qu'on n'avait pas. Et puis même, en fait, on était tellement pris aussi dans notre quotidien avec déjà l'Europe.
Ah, déjà un énorme business à gérer, c'est déjà fat, quoi.
C'était déjà assez important et on savait que les États-Unis, on le ferait pas seul. On avait quand même en tête de vendre notre boîte 2 ans avant on aurait vendu 2 ans plus tard qu'ils viennent nous voir. On n'allait pas leur dire non, c'était le fond rêvé.
Ouais.
Donc on a précipité un peu la vente par rapport à nos objectifs de développement. Et du coup, on s'est dit, bah alors, puisqu'on vend plus tôt, alors on va attaquer l'international plus tôt.
Mmh.
Et en fait, on a attaqué les deux en même temps. On pensait à d'abord attaquer les États-Unis et ensuite l'Asie. Et finalement, on a attaqué les deux en même temps.
Mmh. Quelle excitation, non, pour vous? Ça doit être extraordinaire.
Ouais. Non, mais quand ils sont arrivés, en plus, on était vraiment une boîte encore hyper familiale. On n'avait pas de plan de collection. On faisait vraiment au feeling. Non, vraiment.
Pas de business plan.
Rien, vraiment.
Dan l'avait dans sa tête. Dan est hyper bon. J'ai vu qu'il vous a dit plein de choses. Sachez-le, en général, ce que dit Dan, ça marche. Puisque tous les ans, on le filmait. D'ailleurs, voilà, l'année prochaine, nous allons faire tant. On lui disait, non, mais Dan, là, t'exagères, c'est pas possible. Et en vrai, voilà, son business plan, il était dans sa tête et c'était très clair pour lui. Et il s'est rarement planté, ouais. Et du coup, sans business plan, on avançait. Et c'était quoi la...
Sans plan de collection, sans business plan.
Non, mais ce qu'ils vous ont apporté, et puis l'excitation folle, quoi.
C'était pour ça que je parlais.
Ouais. Non, ce qu'ils nous ont apporté, voilà, ils sont rentrés, ils nous ont aidés à nous structurer complètement. On est passé d'une petite boîte familiale, comme le dit Barbara, à une boîte avec... déjà, chez Bâche, faut le savoir, pendant des années, nous, c'était un vrai souci, il n'y avait pas d'hierarchie. Et d'ailleurs, il n'y en a toujours pas vraiment. C'est-à-dire que on n'aimait pas donner des titres, on n'aimait pas se dire... ça, c'était naturel, ça se faisait tout seul. Bon, le fond nous a expliqué que pour grossir et pour réussir à avancer plus vite, il fallait quand même structurer la boîte mieux que ça et d'une façon beaucoup plus sérieuse. Et donc, on s'est mis à structurer la boîte, à faire monter les compétences des gens qui étaient chez nous, qui sont devenus des directeurs de bureaux où ils ont rentré des assistants, des stagiaires, des N-1, etc.
Ce que je dois dire, c'est que tous les gens à qui j'ai parlé de vous, tout le monde m'a dit, c'est des gens qui sont hyper humains et hyper bienveillant, etc. C'est ce qui revient systématiquement tant qu'on parle de vous. Et je me dis toujours, mais comment on arrive à monter une boîte aussi costaud en étant aussi... c'est con comme question, mais... Non, mais en tout cas, comment on arrive à se structurer, à être aussi costaud et aussi puissant d'une certaine manière en étant gentil?
En vrai, je pense que nous... Pour nous, c'est pas antinomique et puis c'est naturel, comme on vous dit.
Je sais même pas quoi répondre parce qu'en fait, c'est naturel. Ouais,
c'est
vraiment.
Ouais, c'est naturel et faut savoir que Bâche, c'est né de notre amitié. En fait, on n'est pas devenu amis ou on n'a pas décidé de devenir associé parce qu'on a décidé de monter une boîte. Donc on s'est dit, on va créer un endroit où on va se retrouver tous les jours et où il va faire bon y vivre. En fait, on passe plus de temps au boulot qu'à la maison.
Et même limite, il y en a qui pourraient hurler, mais à deux compétences pas égales et même un peu moins, on prendra la moins qui a un caractère qui correspondait mieux à l'état d'esprit de Bâche. Ça c'est certain. En 6 ans, j'espère qu'il va progresser.
On a monté Bâche sur l'humain.
Plutôt que quelqu'un de très brillant mais qui correspondrait pas du tout à l'ADN qu'on attend de lui dans notre boîte, on le prendra pas, c'est sûr. Ça nous est déjà arrivé vraiment. Parce que pour nous, comme elle vous dit, on passe plus de temps ici qu'à la maison, donc on a envie que ça se passe bien, que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit épanoui.
Et nous, on est partie de nous, quoi. On est convaincus naturellement qu'on obtient beaucoup plus de bonnes choses quand elles se font.
Mais c'est même pas pour ça en plus.
Non, on l'a pas fait pour ça, mais finalement.
En tout cas, on n'a pas été déçus de la manière dont on manageait notre boîte, quoi. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas envie de changer, même en grossissant. D'ailleurs, il y a encore toute notre garde rapprochée qui est toujours à nos côtés.
Et ça, faut vous dire que c'est notre plus grosse fierté.
Au fur et à mesure, parce que maintenant, même des filles qui sont là depuis 4, 5, 6 ans, vraiment, elles font partie de notre famille, quoi. Vraiment.
Aussi. Un vrai bâche, c'est notre plus grosse fierté dans tout ça. C'est la famille qu'on a créée. Bâche, c'est une famille. Les gens, si vous les interrogez, sont là depuis 15 ans, 14.
Comme les nouveaux, parce que évidemment, maintenant on a rentré, je sais pas, on doit être à peu près 1000. Donc forcément qu'il y a plein de nouveaux qui sont arrivés, mais même les nouveaux s'intègrent très vite avec les anciens et tout se passe bien. Ouais, vraiment.
Et donc on les voit, ils sont tous ensemble, ils boivent des pots régulièrement, ils s'invitent tous ils peuvent pas inviter tout le monde, mais voilà, on a des mariages où il y a tout le monde.
Qui sont nés aussi chez Bâche.
Et ça, c'est notre plus grosse fierté. Je pense que tout le monde est heureux chez Bâche, que tout le monde est content de bosser. Alors, rares sont les personnes qui sont parties, mais c'est normal. Et alors, ceux qui sont partis, c'était souvent pour monter leur boîte. Et puis, vous allez en interroger certaines. Et d'autres, vous les avez déjà interrogées, je crois. Et puis ceux qui sont partis dans d'autres boîtes pour des raisons, voilà, parfois on peut pas retenir les gens parce que on n'a pas les moyens peut-être à ce moment-là de les payer plus.
Oui, et puis elles doublent leur salaire.
Mais alors le truc est très sympa, c'est qu'ils reviennent toujours nous voir pour nous dire non mais attendez, on savait comme il faisait bon de vivre ici, mais là c'est.
Non, ou alors ce qui est très drôle, c'est qu'elles viennent nous voir en pleurs, on va partir. Je dis mais c'est pas grave, si tu pars c'est pour le mieux. Et on est tellement, donc c'est même celles qui partent souvent sont en pleurs en partant et c'est trop mignon. Ouais.
Elles savent ce qu'elles quittent, mais elles savent pas ce qu'elles vont trouver derrière. Alors j'ai des questions de certaines personnes de votre équipe. J'ai fait ma petite recherche avant. Il y a Flora du retail. Elle demande quelles ont été les plus grosses galères du début.
Alors Flora, déjà pour demander, est-ce que vous lui avez demandé depuis combien de temps elle est là? Eh ben, moi je pense que Flora, elle est là depuis 13 ans. Un truc comme ça, elle a dû rentrer au bout d'un ou deux ans. Et puis alors, comme elle était actrice à la base, elle nous a dit moi, je vais pas rester longtemps. Hein. Voilà, Flora. Et on l'aime d'amour. Et les plus grosses galères, en vrai, honnêtement, Barbara et moi, quand on a démarré cette boîte, donc une boîte, c'est quand même beaucoup de boulot, parce que là, on parle que de plaisir et tout, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup de boulot. C'est beaucoup de sacrifices. C'est effectivement les enfants, les pauvres, ils sont passés de « ils voient que nous » à « ils nous voient plus » beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de voyages, on rentre très tard. Quand je vous dis tard, au début, c'est quand il faut livrer les clients, on reste jusqu'à minuit pour faire les colis, parce qu'on n'a encore pas les moyens de payer quelqu'un pour nous aider à les faire, donc on les fait nous. C'est ça quoi, c'est les galères, c'est on commande un tissu et la modéliste qu'on vient d'engager qu'on paye pas très cher parce qu'on n'a pas les moyens de la payer trop cher, elle le coupe à l'envers, elle s'en rend pas compte et là on se retrouve avec une prod montée à l'envers. Et les galères comme on était
j'ai
deux
vraiment ressenti ce mot galère quoi.
Comme on était deux, c'était plus facile.
Il y a toujours des problèmes à régler tous les jours, même encore jusqu'à aujourd'hui, mais c'est pas des
mais ça
en
reste
tout cas il y a
fun,
rien
quoi.
D'insurmontable quoi, ouais. Vraiment
ça fait partie du taf, mais vous avez le sentiment d'avoir d'être passé à côté de vos enfants peut-être, parce que souvent on dit quand les femmes elles entreprennent, etc.
Pas du tout, parce qu'en fait d'abord on s'est toujours dit les vacances scolaires c'est sacré, donc comme vous savez en France les vacances scolaires il y en a toutes les 5 semaines, ouais. Donc franchement non,
à chaque fois vous
tard, à part les périodes de salon ou de collection effectivement on reste jusqu'à minuit en général, on est à la maison vers 8h, 8h30.
Il n'y a pas ce regret d'être passé à côté de la jeune enfance des enfants, quoi.
On l'a eu pendant très longtemps, vraiment concrètement à la maison. Donc après, quand on est sorti de cette maison, c'était volontaire. Et après, comme franchement, j'ai pas du tout cette sensation-là. Et eux non plus, quand on leur pose la question. On était quand même à la maison tous les soirs.
Ouais. Il y a Sandra qui est styliste. Elle me dit, qui aimeriez-vous habiller?
Continuer à habiller toutes les femmes du monde entier, ça serait super. Et c'est super. Et alors, quand elle dit ça, Sandra, elle pense à quoi?
Elle pense à une people.
Elle pense à une égérie, à une star.
On les a plus ou moins habillées, celles qu'on aime. On adore toujours Vanessa Paradis, mais elle est un peu en bâche. On adore, en fait, toutes les femmes sont un peu différentes, donc c'est toujours sympa d'habiller, les femmes qui ont envie d'être en bâche.
On est toujours très fiers de voir une femme porter du bâche, point.
Mais moi, j'en ai croisé plusieurs, des femmes qui s'habillent qu'en bâche. Et mais à chaque fois, c'est vrai, elles sont dingues. Elles disent, mais moi, je me habillerai qu'en bâche, quoi. C'est dingue.
Oui, parce qu'elles ont une armoire idéale. On leur mâche le travail, parce qu'elles peuvent aller au travail, à la plage, en soirée. Donc, elles peuvent vraiment s'habiller toute l'année en bâche.
Hélène, des accessoires qu'on a aperçus tout à l'heure, avec du recul, qu'auriez-vous fait différemment?
Bah, franchement, alors nous, on n'est pas dans le regret, on n'est pas dans le passé. Sincèrement.
En même temps, non, franchement, moi, rien.
Non, bah, moi non plus. Autre conseil, il faut rien regretter, il faut avancer, il faut regarder devant, il faut regarder maintenant et demain, point. C'est ça qui compte. Et puis, là où on s'est planté, ben, tant mieux, ça nous a servi d'expérience. Et ce qu'on dit toujours à nos équipes, quand ils font une erreur, une bêtise, ça peut arriver à tout le monde et que ça, bah, ce qu'on leur dit, c'est pas grave. Ouais. Voilà, ne le fais plus, c'est tout.
C'est quoi ton plus gros plantage, d'après vous?
Nos plus grands plantages de...
Ouais, les plus grosses erreurs que vous avez faites jusqu'à présent.
En fait, comme on n'est pas dans le passé et dans le regret, sincèrement, c'est qu'en fait, quand on vous dit, c'est compliqué pour nous. Sûrement qu'on a eu des moments plus compliqués que d'autres. Et sûrement qu'on a fait des gros plantages et des grosses erreurs. Mais bon, on s'est relevé à chaque fois, du coup. Finalement. Donc, c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est de pouvoir se relever, rectifier le tir et plus recommencer. Voilà. Donc,
Non, mais vraiment, en plus, non. Vraiment, j'ai pas de réponse à votre question. Je cherche vraiment, non.
Non,
non, à ta question. Non, j'ai pas de plantage.
Non, on est pas, en fait, non, on est parfaite.
On est parfaite.
Il y a Marie-Chloé de la formation. Elle me demande qu'est-ce que ça vous fait d'être à la tête d'une entreprise avec autant d'équipes?
Bah, ça nous rend quand même très responsable, parce que forcément, quand on est chef d'entreprise et qu'il y a des gens qui bossent chez vous, on se sent responsable de ces personnes.
C'est à la fois une fierté et à la fois une vraie responsabilité. Une fierté de voir cette famille qui a tellement grossi. Près de 1000.
Ouais, ce que nous a dit notre RH.
On a dépassé les 1000.
Donc c'est vraiment quand même une responsabilité. Voilà, je
Ouais, c'est vraiment 1000 personnes, c'est quand même dingue, quoi.
Quand on a démarré, on était 3 en plus.
Andrea, assistante styliste, elle dit à la place des filles, je pleurerais tous les jours.
Mais pourquoi?
Et Vic dit pourquoi? Pourquoi?
Voilà.
Parce que ça doit être dingue d'avoir autant de gens qui travaillent pour sa marque. Et elle pose la question suivante. Est-ce que quand vous avez commencé, vous auriez imaginé une telle réussite?
On n'a rien imaginé du tout.
On s'en fichait un peu, en fait. On vivait le moment présent et on était bien dans le moment présent. Donc, on s'est pas dit.
On vit dans le présent, vraiment. Et c'est important. Donc, non, on n'a pas eu d'angoisse particulière.
On a toujours pas.
Et puis, on est de nature, faut le dire. Pas assez d'ailleurs. Très positif, toutes les deux. Et on est plutôt ambitieuse et positive, donc on regarde pas ce qui va pas, on regarde ce qui va, et quand ça va pas, on fait tout pour l'arranger et que ça aille. Ça doit toujours finir par aller bien, quoi.
Et ça, vous tenez ça de quoi, d'après vous? C'est familial, c'est vraiment un esprit, un état d'esprit d'être d'aller
on
de l'avant.
On a toutes les deux, je crois.
On aime le soleil.
Ouais, on a un instinct de vie. Croquer la vie à pleines dents, quoi. Et toutes les deux, on est pareil pour ça. Je pense que c'est ce qui fait qu'on s'entend si bien. On aime la vie.
Pardon. Marion de la production dit, comment avez-vous fait pour garder les mêmes personnes aussi longtemps dans vos équipes?
Ah oui, Marion, vous lui avez demandé depuis combien de temps?
Bah, nous, on essaye de faire qu'elle se sente bien. Je dis elle parce c'est vraiment une boîte de majorité de femmes. Alors maintenant, ça va beaucoup moins aujourd'hui, mais pendant
les
10-12 premières années de cette boîte, c'était vraiment 99% de femmes. Et bah, on essaye qu'elles soient bien le matin, et qu'elles ont envie de revenir, et que quand elles quittent leurs enfants, elles n'aient pas une boule au ventre, et qu'elles se disent, ah bah, chouette, je vais retrouver mon travail et les amis au travail.
On a vraiment pas monté cette boîte dans le stress et dans la pression et dans la terreur du tout. En fait, on se met toujours à la place de la personne qu'on a en face de nous, et toutes les deux, et depuis toujours. Donc, on est la consommatrice, qu'est-ce qu'elle achète, à quel prix et où. On est cette femme qui travaille, donc qui a des enfants et qui se lève tous les matins et qui les dépose à l'école avant de venir et qui parfois doit aller les emmener chez le docteur. Donc, il n'y a jamais eu de stress chez nous, en fait. Et puis, on a recruté des gens sûrement qui nous ressemblent, et puisqu'on s'entend tous si bien depuis si longtemps, c'est des gens qui ont du caractère, de la personnalité. Voilà. L'idée, c'était pas d'en faire ce qu'on voulait, pas du tout. C'était d'avoir des gens en face de nous qui puissent devenir responsables à côté de nous dans le business. Et du coup, ça a fait que, voilà, si quelqu'un a un problème avec un enfant un matin, il nous envoie un texto, il nous dit « je serai là plus tard », pas de problème. Non, et puis on sait très bien, et ça a toujours été le cas, ça s'est fait naturellement aussi. S'ils arrivent plus tard, ils finiront plus tard, s'ils en ont besoin. Tout s'est fait naturellement dans cette boîte avec des gens hyper... hyper responsable, hyper consciencieux,
qui croient, qui ont envie aussi de l'amener là où on a envie de l'amener.
En fait, on a eu cette chance d'aimer les gens qu'on a recrutés, avec qui on travaille, et d'avoir leur amour en retour. Et chez Bache, on leur donne beaucoup d'amour
canapé,
parce qu'on
là, il a
là
souvent
là.
Le canapé du psy.
Et on les aime vraiment. Et je pense qu'il
je crois qu'on aime la, on aime aussi ce qu'on aime dans notre aventure, évidemment c'est aussi tout le côté humain, toutes les rencontres qu'on a fait, ils sont dans notre cœur vraiment.
Et ils bossent avec le cœur. Donc voilà.
Mais ça c'est quand même la clé de beaucoup de réussite.
C'est la clé de notre, je sais pas si c'est possible dans toutes les boîtes. Mais c'est vrai que nous, c'est la clé, je pense, de notre succès. Ouais.
Mais ça, c'est quand même hyper difficile à... Je sais pas si c'est... Enfin, c'est compliqué de l'expliquer, mais comme il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, cette bienveillance, cet amour, cette générosité que vous avez, etc. Enfin, si on l'a pas en soi dès le départ, c'est compliqué de ça s'invente pas, quoi, je veux dire.
Non, mais il y a des boîtes qui se sont construites après avec d'autres codes. Nous, c'était notre code parce qu'on a démarré, on était 3, 4, 5, dans un petit bureau.
Mais comme elle a dit
Barbara, les grossesses, les mariages, les machins, on a tout vécu avec ces filles-là. Mais donc les plaquages, les pleurs d'amour, voilà, on a quand même peut-être parce qu'on est deux femmes et qu'on est maman et qu'on était déjà maman quand on a monté cette boîte et qu'on les a un peu pris comme nos enfants.
Et comme elle a dit Barbara, en fait, nous, quand on avait deux CV en face de nous et qu'on a rencontré les personnes, c'est très important pour nous de rencontrer les personnes et de passer du temps.
On en passe, quoi qu'il arrive, du temps.
Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, sur un CV beaucoup plus capé et avec une personnalité qui nous plaît moins, on choisira effectivement la personnalité qui nous plaît le plus. Et je pense que c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a réussi à construire une boîte qui s'est construite sur l'humain, puisque l'humain est au centre de tout chez nous. C'est vrai.
J'ai une question aussi d'Eric, styliste Maille. Quel est votre secret pour garder autant de complicité après 30 ans d'amitié?
C'est de la magie, hein. Ça c'est comme l'amour, hein. Ça s'explique pas. On est contente d'arriver le matin et de se retrouver. On est contente de voyager ensemble. On est contente de partir en vacances ensemble. Parce que en plus de ça, on part en vacances ensemble. Le soir, on sort ensemble.
Mais j'avoue
c'est particulier.
Que ça surprend beaucoup nos proches parce que quand ils nous voient le soir à un dîner, on a 1000 trucs à se raconter, alors qu'on a passé la journée ensemble. On a toujours 1000 choses à se raconter, voilà, c'est comme ça, c'est un coup de foudre amical. Et comme elle, comme moi, la première à qui on a envie de raconter tout, on n'a aucun secret, pour moi c'est Barbara.
Mais vous engueulez de temps en temps quand même?
Engueuler, non.
Non.
Pas être d'accord, oui. Mais heureusement, c'est ça qui fait la différence et qui nous aide à construire cette boîte. Et puis, ça dure 2 secondes.
Ouais.
On n'est pas contente. Et en fait, comme, encore une fois, Bache, c'est né sur de l'amitié, c'est ce qui prime avant tout. Donc, on va pas se disputer jamais. On lâche. Une des deux lâche. Là, je lâche. Voilà. Par amitié, je lâche, voilà. Ce qui est rare. Mais par amitié, je lâche. Et, un coup, c'est elle. Un coup, c'est moi. Et puis, voilà. Et puis, on regarde jamais derrière. Ouais. On se dit pas, c'était pas la bonne décision. Ouais. Jamais. On avance.
Ouais, ouais. Y a un autre milestone pour moi qui est important. C'est quand même l'arrivée de l'homme. Chez Bache.
Non, alors là, c'est pas une arrivée de l'homme.
D'accord.
En fait, ça a été un petit jeu, c'était une capsule. On a très envie de faire de l'homme, et on l'a fait parce que voilà, on a fait une rencontre qui a fait que on s'est dit, allez, on lance une capsule d'homme et puis on voit ce qui se passe. Et on a compris que en fait, l'homme, on pouvait pas le faire dans une boutique de femmes. Ça a plu. Les gens qui l'ont vu l'ont aimé, l'ont acheté. Mais en fait, on n'a fait aucun marketing autour de ça parce qu'on n'avait pas prévu de budget pour. Parce qu'aujourd'hui, on travaille avec des budgets, tout ça, c'est hyper sérieux depuis que le fonds est rentré. Donc, on peut plus faire ce qu'on veut n'importe comment. Et donc, on n'avait pas de budget pour faire du marketing dont on n'en a pas fait. On n'avait pas beaucoup d'espace dans les boutiques femmes pour l'homme parce qu'on n'avait pas prévu. On n'avait même pas de mannequin homme, pour vous dire, à mettre en vitrine à la base. Donc, forcément, on a compris qu'on pouvait pas s'amuser à faire ça n'importe comment. Les filles en boutique sont pas formées pour vendre de l'homme. Les hommes, quand ils viennent en boutique, ils sont quand même gênés de partager leur cabine avec des femmes. Donc voilà. Donc on a compris. Ça nous a vraiment beaucoup amusés. On a adoré. Et on se dit que
on reviendra avec une structure plus adaptée.
Donc on reviendra dès qu'on pourra refaire de l'offre.
Là il y a l'accessoire parce qu'en fait on a tellement de choses qui arrivent en même temps qu'à un moment on peut pas non plus se se dédoubler. Ouais. Donc il y avait déjà tous ces nouveaux marchés qui arrivent, la Chine, les États-Unis. Ouais. Il y a l'accessoire qu'on est en train de lancer et puis parallèlement il y avait l'homme, donc à un moment on s'est dit attends, là on va un petit peu
se calmer,
se poser et bien aller bien terminer notre première mission, c'est-à-dire de d'être bien implanté en Chine et d'être bien implanté au niveau des collections aussi aux États-Unis. Mmh. L'accessoire est très important pour nous et l'homme après viendra naturellement.
Et alors ouais, justement le futur, la vision pour Bash là dans les années qui viennent, parce que vous êtes encore très jeune, il y a encore plein de choses à écrire, c'est quoi le futur?
Bah le futur c'est l'export toujours, continuer parce que ça c'est à l'infini, ça c'est vraiment notre métier, il est à l'infini pour ça. Continuer à se développer à l'export et l'accessoire et puis après l'homme.
D'accord. Et si vous
même il y a plein d'autres trucs. Après, on a envie de faire des lignes aussi de robes de soirée. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Il y a les lunettes qu'on a lancées aussi l'année dernière qui fonctionnent super bien. Il y a tellement de choses en fait.
Et quand vous disiez tout à l'heure l'accessoire, comment vous l'avez appréhendé?
Alors l'accessoire, pareil. Au début, on le faisait en même temps que nos collections. On sortait un ou deux sacs comme ça, mais il n'y avait pas autour de ça un vrai lancement. On prenait pas beaucoup de temps de se poser, alors qu'en fait l'accessoire c'est ce qu'il y a de plus compliqué quand on vient du prêt-à-porter. Du coup là on a monté une structure accessoire avec Hélène qui vient d'arriver depuis un an et on est en train de lancer notre première ligne d'accessoires qui devrait sortir en novembre.
Et si vous deviez lancer un business aujourd'hui, si vous deviez relancer Bash aujourd'hui, comment vous y prendriez?
De la même manière, avec tout notre cœur. Toute notre conviction.
On miserait plus sur le D2C, évidemment. Avant, c'était les salons. Là, maintenant, ce serait plus Internet. Parce qu'à l'époque, quand on a démarré, il n'y avait pas non plus Internet qui était aussi développé. On avait commencé à lancer.
Ouais. En fait, on a démarré Bash, on a monté le magasin un an après, on a monté le wholesale et on a monté tout de suite
notre site.
Alors, il ressemble pas à ce qu'il ressemble aujourd'hui. C'était très.
On n'avait pas du tout les moyens.
On n'avait pas les moyens d'investir et tout, mais
on y pensait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on mettrait plus nos moyens sur Internet que sur certainement. Enfin, si on devait répartir notre budget aujourd'hui, si on devait se lancer, évidemment qu'Internet prendrait une plus grosse part de marché.
Et moi, ma réponse était plus quoi que vous fassiez, mettez-y tout votre cœur. Il faut y croire, il faut écouter personne. Parce que alors, si on avait écouté les gens à l'époque,
on n'aurait jamais démarré.
Monté cette boîte. Non, le prêt-à-porter, ça marche pas.
Vous êtes folle, mass market arrive, etc., etc.
Donc, il faut y croire, il faut y aller à fond, il faut donner tout son cœur, il faut s'entourer d'une équipe solide humainement. Nous, en tout cas, ça a été. Parce que finalement, c'est vrai que la majorité des gens qui sont aujourd'hui à la tête de chaque pôle chez Bash, c'était les stagiaires qui sont rentrés nous aider à l'époque, il y a 15 et 13 et 14 ans, etc. Et ils ont grossi et grandi avec nous, ils ont appris sur le tas, la majorité d'entre eux.
Mais un peu comme nous finalement, parce que nous aussi en fait on apprenait, on n'avait jamais eu une autre marque, jamais produit, jamais tout ça. Donc en fait on a tous appris tous en même temps. On a tous grandi ensemble.
J'avais une question encore, mais j'oublie à chaque fois parce que je vous écoute, je suis trop dans le moment présent. Je crois qu'on a fait le tour de questions, non? Moi, j'ai posé toutes mes questions, mais est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que vous souhaiteriez... Si, je suis con. Ça y est, ça revient. La sustainability, c'est quand même un sujet dont on parle beaucoup en ce moment dans notre industrie, et je sais que ça vous tient à cœur, vous aussi. Comment vous l'avez appréhendé, abordé, et à partir de quand c'est rentré chez vous, chez Bash?
Alors déjà, je veux vous dire que moi, je suis éduquée par Barbara depuis qu'on est petite, parce qu'elle est née avec ça. Sa mère, elle était très...
Elle jetait par terre,
elle m'a appris à plus jeter mes cigarettes quand je fumais, parce que je fume plus, mais quand je fumais, elle m'a appris à plus jeter mes cigarettes par terre.
Non, mais ma voiture, c'était une poubelle, parce qu'en fait, depuis que je suis petite, j'avais jamais eu le droit de jeter quelque chose par terre. Elle n'était pas du tout, en plus, à l'époque, alors là, il y a 50 ans, on n'était pas du tout dans le RSE, mais c'était juste parce qu'elle aimait la nature. Ma mère aimait la nature, j'ai été élevée à la campagne et tout ça. Et donc, on devait rien jeter par terre, et du coup, c'est toujours resté. Donc, dans mes sacs ou dans ma voiture, au lieu de jeter à la poubelle quand il n'y avait pas une poubelle à côté de moi, je jetais dans le sac ou dans la voiture. Non, mais vraiment. Donc, j'ai jamais jeté de par terre. J'essayais les brouillons de les récupérer. Donc, c'était vraiment des petites choses au début parce que c'était il y a très longtemps. Et puis, au fur et à mesure qu'on est arrivé au staff, enfin, c'était compliqué parce que quand même, on fait quand même partie d'un secteur qui pollue énormément. Je veux dire, c'est un fait. Mais maintenant, on peut pas non plus tout changer. Enfin, je veux dire, on a aussi 1000 personnes qui travaillent pour nous. On doit être aussi vigilant dans notre équilibre de marché. Mais évidemment qu'on tend vers ça. Donc, déjà, il y a plein de gens chez Bache qui s'intéressent aussi foncièrement à ça et qui sont foncièrement comme ça. Donc, on a commencé à trier les poubelles, à enlever les bouteilles en plastique quand on pouvait, les gourdes, etc. Oui, oui.
Ça vient de Barbara et certaines personnes.
Et des personnes qui
chez
Bache,
très compte.
Ça, c'était le début. C'est-à-dire que vraiment en interne. Et puis après, on a commencé à se dire, mais dans ce qu'on crée aussi, il va falloir commencer à faire attention. Mais on a la chance aussi que finalement les gros acteurs de ce marché s'y sont mis aussi. Donc finalement nos fournisseurs naturellement commencent à nous proposer de toute façon des qualités recyclables, de polluer moins à travers les transports. C'est-à-dire qu'avant on faisait beaucoup de bateaux, maintenant on fait du train. Voilà. Et en fait il y a des gens qui sont dédiés à ça dans notre boîte et qui sont dédiés à faire attention à la planète.
En fait, ça nous a toujours parlé depuis le début. C'est vrai que nous, à notre niveau, ce qu'on pouvait faire, comme elle dit, c'était le tri des poubelles, etc. C'était moi faire signer des contrats aux fournisseurs. Malheureusement, on n'avait pas les moyens de les faire auditer, mais on faisait déjà signer des contrats pour dire attention aux conditions de travail, attention aux enfants. Et quand nous, on voyageait, on leur demandait toujours de pouvoir visiter les usines pour lesquelles c'était possible d'aller voir parce qu'elles étaient proches de là où on était. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on est heureuse de se dire qu'on a les moyens maintenant de payer des audits pour vraiment aller vérifier. Donc, et puis notre équipe de prod est à fond là-dessus.
À fond. Alors, c'est Marion, justement, de qui tu parlais tout à l'heure. Et elle est déjà comme ça de nature. Et aussi. Donc, c'est génial, parce que c'est elle qui a la tête du service de prod. Donc, elle va aller directement tout de suite vers des
matières éco-responsables.
Le transport, elle va privilégier le train. Enfin, voilà. Elle, dans son planning, elle s'organise pour pouvoir évidemment délivrer, parce que quand même, on a quand même un business, on va pas faire. Enfin, on s'est pas bâti là-dessus, donc c'est plus compliqué pour nous. On doit faire machine arrière et toutes les nouvelles choses, bien sûr, qu'on va construire là-dessus. Mais on essaye de faire machine arrière, ce qui est pas facile quand on a une grosse machine comme ça derrière nous. Et donc voilà, on choisit les qualités. S'il y a deux qualités qu'on aime, forcément, on va aller vers celle qui est éco-responsable. Il y en a de plus en plus maintenant. Donc vraiment, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour quelqu'un qui monte une marque de mode d'aller vers cette structure-là. C'est beaucoup plus facile.
Ça devient naturel, quoi, aussi.
Tout le monde. On n'en parle pas encore beaucoup parce qu'on n'est pas complètement, donc après on n'a pas envie de dire, ah oui, vous dites ça, mais regardez cette robe. On y arrive, on a peut-être 20% de notre collection.
C'est pas quelque chose sur lequel on va surfer ou on a envie de surfer parce que.
C'est pour nous vraiment qu'on le fait pour la planète, quoi. Ouais. C'est pas du tout pour.
On le fait pour nous parce qu'on se sent responsable de quelque chose sur cette planète et qu'on se dit que c'est normal d'être éco-responsable aujourd'hui et de faire attention à ce qu'on fait. Mais on va pas s'en vanter, on va pas aller voilà. On s'est posé la question ici en interne. Est-ce qu'on l'écrit sur nos comptes textures si la matière était éco-responsable, etc. Est-ce qu'on le dit? Au début, on a pensé non. Pourquoi? Enfin, on le fait parce qu'on veut le faire, pas pour le dire. Et en fait, c'est une demande que nous font les jeunes ici en nous disant mais nous, ça nous intéresse quand on va aujourd'hui acheter des fringues, on regarde. Donc aujourd'hui,
mais on l'est pas 100%, donc on n'avait pas envie de communiquer dessus.
Oui.
Donc
on n'est pas parfait.
Tant qu'on n'est pas parfait.
Mais
non,
vraiment.
Et puis on communiquera, je pense, jamais dessus. On pourra. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir répondre dans le bon sens à chaque question qu'on nous posera sur l'éco-responsabilité.
Les clients,
je pense que oui, au service client, ils doivent avoir des demandes et on doit leur poser la question.
Mais on l'a pas fait pour ça, vraiment. On l'a fait parce que nous-mêmes, on se sent responsable pour notre terre, quoi, qu'on aime.
Donc aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on va petit à petit. L'idée, c'est d'arriver au 100%. L'idée, c'est d'arriver au 100% et voilà, et petit à petit. Mais je vous dis, en plus, on se rend compte que finalement, c'est beaucoup plus facile que prévu parce que pratiquement tous nos fournisseurs y sont déjà. Donc, ça devient plus un réflexe.
Au début, on s'est dit, mais comment on va faire parce qu'on veut aller vers ça et tout. Et finalement, quand on a commencé à...
On a eu des bonnes surprises.
Vraiment, même des cuirs, des choses comme ça, vraiment, on a été hyper surprises.
Parce que... C'est quand même une bonne nouvelle que vous me disiez ça, parce que j'ai l'impression, quand j'en parle souvent avec les fondateurs, ils disent ouais, enfin l'industrie elle est pas encore rendez-vous, etc.
Ah bah on vient de les découvrir, hein, puisque oui, vraiment
notre deuxième saison, on travaille de plus en plus comme ça. Et puis il y a quelqu'un qui est dédié complètement à ça. On a pris quelqu'un d'externe aussi, de Pure, je sais plus comment s'appelle la boîte, qui nous aide aussi à nous structurer en fonction de qui nous aide à nous structurer. et qui nous aide à nous organiser dans ce sens.
Non, on a même monté un petit groupe chez nous.
Ouais.
Ils ont décidé de monter un petit groupe entre eux et ils nous aident tous à comprendre ce qu'on peut changer, à nous amener vers
et il y a un responsable RSE qui ouais,
oui, ça. Il y a une équipe.
D'accord. Trop bien.
Il y a une équipe qui s'est montée.
Mais j'aimerais bien les interviewer alors.
Ah ben oui.
Ouais, Marion. Mais Marion, j'ai déjà été en contact avec elle. Ouais.
Des podcasts en plus, Marion. Elle est très avant-gardiste là-dessus. Ouais, ça fait 2-3 ans qu'elle nous dit ça.
Très bien. Non, bah, sustainability, ça c'était un truc qui était très important à aborder. Et je repose ma question, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que vous auriez voulu, dont vous auriez voulu parler, quoi?
Alors, Barbara, viens, on réfléchit parce que j'ai peur qu'on se dise, mais zut, hein, ouais. Alors, on a parlé de nos enfants qu'on aime plus que tout au monde, de nos enfants bas qu'on aime pareil tout autant depuis, de cette fierté d'avoir créé cette famille, cette deuxième famille de cœur.
Non, mais cette chance surtout qu'on a tous les matins, parce qu'on a quand même un métier qui ressemble. Un jour, on va faire de la com, un jour, on va faire le shooting, un jour, on va faire la créa. Donc c'est quand même hyper enrichissant, toutes ces rencontres qu'on a faites. Non, voilà, c'est ce côté qu'on a beaucoup de chance. Ouais.
Parlez-nous peut-être de votre processus créatif, parce que vous êtes les deux têtes pensantes créatives de Bash. Comment vous vous organisez et comment vous faites pour ne pas finalement tourner en rond?
Alors déjà, notre processus créatif, il démarre que on voyage beaucoup. Donc on voit tout ce qui se passe un petit peu, on est quand même un peu dans le mood de ce qui se passe dans les grandes villes, que ce soit l'Asie ou l'Europe ou les États-Unis. Ensuite, on fait une semaine par saison, on se réunit tous à la maison chez moi à Ibiza, on prend on est une dizaine de personnes à partir, c'est-à-dire tous les stylistes, la sourceuse matière, Hélène qui s'occupe du plan de co, on part tous à la maison pendant une semaine, et pendant une semaine on ne fait que ça. Parce que quand on est ici, on est forcément dérangé parce qu'on n'est pas que dans la créa. Donc forcément, on va nous poser plein de questions sur plein de choses. Donc notre bureau, la porte est tout le temps ouverte normalement. Ouais. Là, tout le monde est calme, mais ça rentre, ça sort tout le temps. Donc on est tout le temps déconcentré. Donc pendant une semaine, on fait que ça. On démarre, on choisit toutes les qualités, les thèmes, les imprimés, les couleurs, etc. Et avec toute notre équipe de style, nos stylistes, toutes nos envies à nous toutes. Et on démarre la collection, notre process de créa, il démarre à ce moment-là pour la saison, pendant une semaine.
Mais pareil, là encore, nos stress, on s'est jamais mis la pression. Nous.
Ah, de tourner en rond, on n'a pas tout cette impression.
Et voilà. De toute façon, la question, c'est
Puis aujourd'hui, on n'est plus seul. Autant au début, on était vraiment toutes les deux à faire les collections. Aujourd'hui, on a une équipe de collection. Donc, de toute façon, on est aussi rafraîchis par toutes ces filles qui nous amènent plein d'idées. Donc, on n'est plus seul aussi. Donc, on se sent un peu moins seul. Au début, on était vraiment toutes les deux à...
Puisque l'idée, c'est de faire notre placard idéal. Donc, on a toujours plein d'envies, toutes les deux. Qu'est-ce qu'on a envie de porter demain, quoi? Et on adore changer de placard idéal. Donc, chaque année, on enregistre pendant 6 mois plein de choses dans notre tête, dans notre portable. C'est tellement facile aujourd'hui de prendre tout en photo. Et puis, 6 mois après, quand on se retrouve pour cette...
On déverse toutes nos idées.
On déverse tout ce qu'on a vu pendant 6 mois qui nous a plu. On refait le tri tous ensemble. Toutes les stylistes amènent leurs idées. Aujourd'hui, c'est magnifique parce que cette équipe, elle commence à adapter. À être super solide. Elles nous connaissent par cœur, ils savent ce qu'on va aimer, ce que va aimer Barbara, ce que je vais aimer, ce qu'on va aimer toutes les deux. Et c'est tellement plus facile et ça va... Non, franchement, pour l'instant, c'est facile. Bon, le jour où ça le sera plus, je pense qu'on partira.
Ouais.
Avant qu'il ne soit trop tard.
Et ça, c'est la question un peu rockstar, mais à quoi ressemblent vos journées?
Elles sont quand même très différentes. Bah, alors, moi, elle démarre par jamais de ma fille à l'école parce que j'ai encore une petite qui est à l'école. En général, après, je fais 1 heure de yoga. Et puis après, on arrive au bureau et après, je vous dis, ça peut être un jour, on va être consacré à la com, un jour, on va être consacré au style, un jour, on va être consacré, on va faire un board, un jour. Elles sont toujours très différentes. Donc ça, c'est vraiment génial.
Mais très intenses. Elles sont toujours aussi intenses.
On bosse différemment qu'au début, parce qu'au début, c'était beaucoup, beaucoup de travail, parce qu'on était que toutes les deux, donc on était obligés de terminer quoi qu'il arrive. Je vous dis, on a des équipes solides qui nous aident. Donc on travaille toujours, mais plus encadré. On est plus encadré.
Très bien.
Moins dans le détail. En fait, aujourd'hui, depuis, on peut dire que jusqu'à il y a 2 ans, on était très, très la tête dans le guidon encore, sincèrement. Et puis là, avec toute cette structuration que nous a apporté le fond, les gens qui ont grandi, qui sont
plus costauds. On a plus de temps pour pouvoir aller faire des choses qui amèneront après, évidemment, aussi à la marque. On a plus de temps pour aller déjeuner avec des gens extérieurs. pour notre boîte, alors qu'avant, on n'allait jamais déjeuner avec personne. On a plus de temps pour aller se balader, voir un peu ce qui se passe, aller chiner des choses. On avait moins le temps de ça avant.
Non, et puis on fait des choses aujourd'hui. Aujourd'hui, en résumant, on va dire qu'on ne fait quasiment plus que ce qu'on aime. Mm. Et on fait plus ce qu'on n'aime pas ou ce qui est plus dans le détail, tout ça. Là, on a vraiment des équipes où c'est vachement plus
agréable. Mais avant, on faisait tout. Même les ventes de presse, on les organisait. On était là. Enfin, on faisait tout.
À la
là, aujourd'hui, maintenant, les ventes de presse, on passe, on dit bonjour. Donc, tout est plus simple quand même pour nous.
Bah écoutez, merci infiniment. Moi, je suis ravi d'avoir discuté avec vous.
C'était,
c'est rare que je fasse des interviews à trois. C'est moins simple, mais
là, c'était compliqué d'en avoir une chacune.
Non, mais c'était top. Franchement, j'ai passé un super moment. Je suis très content de vous avoir parlé. Je suis
merci,
content que les gens de vos équipes ont pu poser des questions. Et je vous souhaite encore plein de bonnes choses pour les 15 prochaines années et même pour les 50 prochaines années.
Bah, nous, on vous souhaite la même.
Merci infiniment. Merci. Et dernière question que je pose toujours, c'est qui souhaiteriez-vous entendre dans ce podcast?
Ben, je sais pas, parce que nous on a écouté Frédéric Buse il y a pas longtemps. Je sais pas, à chaque fois c'est très sympa, donc finalement c'est sympa.
Donc on vous
de...
laisse choisir, Adrien. Ouais. On vous fait confiance, ça nous plaît jusqu'à là. Qui on aimerait entendre?
Peut-être Bernard Arnault, c'est pas mal.
J'allais dire ouais. La même chose. C'est
drôle. Bernard, si tu nous entends.
Merci beaucoup.
Merci,
Adrien.
Salut.
Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Il n'y a pas de pub sur ce podcast. Entreprendre dans la mode est financé par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez vous aussi rejoindre cette communauté et soutenir Entreprendre dans la mode à partir de 2€ par mois en allant sur patreon.com/entreprendre dans la mode. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.